7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Ils dénoncent des scandales sanitaires, la corruption de leurs élus ou encore les pots de vin demandés par des fonctionnaires dans leur pays. Sur le continent africain, ils sont de plus en plus nombreux dans l'ombre à révéler des pratiques illégales. Actes de résistance de Johannesburg à Kinshasa, c'est le cas d'ailleurs partout sur la planète. Edward Snowden, Julian Assange, Irène Frachon, des noms devenus célèbres, symboles d'un engagement citoyen au détriment souvent d'une vie professionnelle qui peut voler en éclats avec de vrais sacrifices personnels. Les lanceurs d'alerte sont-ils les héros des temps modernes dans nos sociétés en mal de figures à admirer? Et jusqu'à quel point peut-on tout dire au nom de l'intérêt général? Alors elle fait partie de ces vigies de la démocratie. Nicole-Marie Meyer, bonjour.
Bonjour.
Vous avez révélé des malversations au sein du ministère français des Affaires étrangères, évincé du Quai d'Orsay en 2004. Vous vous êtes depuis fixé un combat, un objectif, celui de protéger les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, vous êtes responsable alerte éthique auprès de l'ONG Transparency France qui lutte contre la corruption. Bonjour William Bourdon.
Bonjour.
Vous êtes avocat, fondateur du cabinet Bourdon et associé, président fondateur de l'organisation Sherpa. Vous avez publié Petit manuel de la désobéissance citoyenne aux éditions JC Lattès et vous avez cofondé la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique en 2017 à Dakar. Vous nous en parlerez. Également avec nous Thomas Schauder, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, chroniqueur au Monde Campus. Vous nous apporterez votre éclairage philosophique sur ces questions d'intérêt général et de désobéissance civile. Et Jérôme Frinier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des programmes de Greenpeace France. Alors et vous, les voisins, les voisines, connaissez-vous des lanceurs d'alerte, des lanceuses d'alerte aussi dans vos pays? Quel regard portez-vous sur leur combat? Vos commentaires et vos questions au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71.
Le patron de Wikileaks, Julian Assange, a donc promis de nouvelles révélations.
Wikileaks s'est fait connaître du grand public en publiant des centaines de milliers de documents militaires et diplomatiques américains.
Snowden, informaticien américain dont le seul tort a été d'être un lanceur d'alerte, comme il est d'usage d'appeler aujourd'hui un individu qui a outrepassé son devoir de réserve pour le bien de l'information publique. Edward Snowden est toujours réclamé par les Américains qui veulent le juger pour espionnage et haute trahison.
Je rappelle que vous êtes Irène Frachon, cette médecin pneumologue à l'hôpital qui, sans être mandatée pour cela, met à jour, révèle les ravages du Mediator, ce médicament coupe-faim qui provoque des valvulopathies, des affections cardiaques souvent mortelles.
Vous êtes lanceuse d'alerte, vous avez lancé l'alerte sur le Mediator, vous avez été traînée dans la boue, vous avez été harcelée, vilipendée.
Un traître conscient de ses actes ou bien un naïf idéaliste?
Bradley Manning, ancien soldat qui a fourni tous les documents sur l'Irak à Wikileaks.
Il a affirmé devant la cour martiale qu'il espérait par son action provoquer un débat public. Il se considère innocent de l'accusation de collusion avec l'ennemi.
Alors de grands noms se sont illustrés, ont incarné cette notion de lanceur d'alerte qui n'est pas si récente. Nicole-Marie Meyer, de quand date-t-elle? Depuis quand parle-t-on de lanceur d'alerte?
Alors on peut remonter, si l'on veut, on peut remonter au fondement de la démocratie grecque, puisque un historien du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Polybe, disait que la démocratie est constituée de trois piliers, l'égalité devant les droits, la participation de tous les citoyens au pouvoir et la liberté de dire la vérité. Et le critère de la vérité est fondamental, parce que pour le droit d'alerte, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, il s'agit d'avoir le droit de dire la vérité. Alors ensuite, on ne va pas remonter les siècles, mais ce qui est important, c'est qu'au XVIIIe siècle, avec les révolutions américaines et françaises, on sort de régime d'absolutisme et on veut voir, si vous voulez, la transparence du pouvoir politique. Donc il y a le principe de ce qu'on appelle la redevabilité. Tout citoyen a le droit de demander des comptes au pouvoir politique et à l'administration. Donc vous avez une résolution du Congrès américain en 1778 suite à la plainte de 10 marins en pleine guerre d'indépendance qui dénoncent leur commandant qui a torturé des prisonniers britanniques. Donc c'est quand même très très étonnant comme début. Et le Congrès va leur donner raison et faire une résolution qui dit que tout citoyen a le droit de dénoncer effectivement des crimes ou délits commis par des agents publics. Et nous, En 1789, nous allons par l'article 15 de la Déclaration du citoyen, des droits de l'homme et du citoyen, dire que tout citoyen a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Alors ensuite, ça ce sont les principes constitutionnels qui sont reconnus au XVIIIe siècle. Au XXe siècle, et c'est un peu la même chose, on sort du nazisme et de régimes totalitaires. Donc on va avoir des travaux en sciences politiques et en sociologie sur l'abus de pouvoir. Et à ce moment-là, effectivement, vous allez avoir également, je dirais, le concept de responsabilité professionnelle qui émerge avec un avocat des droits de l'homme qui s'était battu pour les droits civiques, pour les droits des Noirs précédemment. Ça vient de la lignée des droits de l'homme, effectivement. Et Ralph Nader, dont on connaît le nom parce qu'il est l'avocat, effectivement, du citoyen contre les lobbies économiques ou du droit du consommateur en général, Ralph Nader va publié en 72 une enquête sur la responsabilité professionnelle qui posera une espèce de cataclysme parce qu'il réunit le récit de salariés qui ont été licenciés, agressés ou enfermés en hôpital psychiatrique pour avoir révélé les crimes de leur employeur. Et il donne la première définition. Le lanceur d'alerte sait toute personne qui, considérant que l'intérêt général prévaut sur l'intérêt privé, notamment de l'organisation qui l'emploie, signale que cette organisation est engagée dans une activité illégale, illicite ou dangereuse. Et donc, vous avez le concept d'intérêt général. Donc, vous avez la redevabilité et le concept d'intérêt général. Et à partir de là, vous aurez le Watergate, etc. Et la première législation naît en 78 suite au Watergate.
Alors justement, l'intérêt général, Thomas Schauder, comment est-ce qu'on définit cette notion-là? De quoi parle-t-on quand on parle d'intérêt général?
L'intérêt général, c'est une notion qui s'est substituée progressivement dans l'histoire de la philosophie politique à la notion de bien commun, mais en fait qui recoupe une réalité tout à fait similaire, à savoir l'idée que ce qui donne légitimité au pouvoir politique, ce qui justifie que les citoyens abandonnent le pouvoir de se gouverner eux-mêmes à des instances dirigeantes, que ce soit un roi, un prince ou une assemblée, ce qui justifie cela, c'est que ce roi, ce prince ou cette assemblée s'engage, c'est ce qu'on appelle le contrat social, à défendre l'intérêt général contre toutes les menaces plus ou moins graves que les intérêts particuliers peuvent faire peser sur l'ensemble de la communauté politique.
William Bourdon, cette question d'intérêt général, elle est essentielle quand on parle des lanceurs d'alerte.
Mais c'est le cœur, hein, c'est le cœur du sujet. Que ce soit les grands lanceurs d'alerte au XXe siècle qui ont fédéré sur des transgressions, Martin Luther King, Gandhi. Et qui ont fédéré.
Pour eux aussi, on peut parler de lanceurs d'alerte.
Absolument, on peut parler de lanceurs d'alerte, parce que. Et de grands désobéissants. Des lanceurs d'alerte et des grands désobéissants. D'ailleurs, c'est important de souligner que ce paradoxe, qui est que. Et un paradoxe bienvenu, qui est que plus les lanceurs d'alerte sont protégés, moins ils ont nécessité de désobéir. Et que tous les désobéissants ne sont pas des lanceurs d'alerte, et que quand on est très protégé comme lanceur d'alerte, eh bien, on fait l'économie de la transgression. Donc, ça, c'est une dynamique aujourd'hui absolument exceptionnelle, qui a émergé, là, maintenant, il y a 15 ou 20 ans, même si elle puise ses racines dans l'Antiquité et dans bien les textes philosophiques.
Et comment expliquer justement ?
Le vrai sujet pour moi, c'est que ce qui fait que, à la fin du XXe siècle, je témoigne en tant qu'avocat de gens qui sont venus me voir, le premier Philippe Pichon, ce grand commandant de police qui avait dénoncé le scandale du STIC, Hervé Falciani, Swiss Leaks, HSBC, quand même, une espèce de machine à aspirer, l'évasion fiscale à l'échelon mondial extraordinaire, et qui nous promet d'ailleurs quand on passe. Quand on va dans des avions, dans les aéroports, un avenir merveilleux. Et puis Antoine Deltour, bah, c'est une très grande fierté d'avoir défendu ce citoyen français si exceptionnel. Sans lui, ce qui était un secret de Polichinelle serait resté un secret de Polichinelle. Bon, les tax rulings. Et évidemment que Snowden, que j'ai été voir à Moscou il y a quelques mois pour une réunion de travail. Le cœur du sujet, c'est que c'est au moment où les citoyens du monde entier ressentent que l'ensemble des intérêts généraux, des intérêts publics, n'ont jamais été aussi menacés, maltraités. Et ils sont menacés par des comptes à rebours dont tous les politiques nous serinent que ce compte à rebours est anxiogène pour l'humanité tout entière. Eh bien, c'est au moment où ils ressentent que ces intérêts généraux n'ont jamais été aussi, autant menacés, c'est le même moment où ils ont le sentiment que ceux qui sont en responsabilité altèrent, abîment ou fragilisent ce contrat social qu'on vient d'évoquer à l'instant. C'est-à-dire, là où il faudrait attendre le plus et le mieux d'eux, c'est le moment où ils n'ont jamais été aussi discrédités, impuissants, cyniques. C'est ce moment de l'histoire où leurs marges de manœuvre ont semblé tellement réduites qu'ils, du coup, ils se considèrent comme dans l'exigence, pour reprendre une très jolie expression de Vaclav Havel, de mettre en musique une forme de petite insurrection intime. C'est-à-dire de dire au fond, puisqu'il y a une défaillance généralisée,
Et bien moi,
je porte une forme de co-responsabilité. Je suis à l'avant-garde, même si au moment où je le fais, je l'ignore. Je deviens un citoyen avant-gardiste qui, au nom de l'humanité, va prendre des risques pour révéler des graves atteintes à l'intérêt général. Et les révélant, peut-être, pas toujours d'ailleurs, peut-être justement permettre cette redevabilité, c'est-à-dire cette responsabilisation des acteurs publics et privés, au moment où parfois même ils cultivent à l'échelon mondial une espèce de gigantesque musique, une propagande planétaire qui est que eux aussi, ils sont co-responsables de la planète, alors que parfois certains d'entre eux, en tous les cas la phase sombre de la mondialisation, n'a jamais autant cherché à organiser son irresponsabilité juridique. C'est ce grand écart, c'est cette tension qui fait de l'irruption des lanceurs d'alerte un des sujets les plus brûlants du début du XXIe siècle.
On peut être lanceur d'alerte sur des sujets très divers, Jérôme Frignet, notamment ce que vous faites à Greenpeace.
Alors oui, alors déjà peut-être une petite particularité, c'est que lorsqu'on parle de Greenpeace, on ne parle pas d'une personne physique, d'une association, et donc il y a aujourd'hui très peu de protection légale. On parlera tout à l'heure de la loi Sapin 2, hein, qui vise à donner un peu plus de protection aux lanceurs d'alerte, mais en tant que personne physique. Pour les personnes morales, ça n'existe pas. Donc nous, on s'appuie sur la liberté d'expression qui nous est de plus en plus contestée, notamment par des grandes multinationales. On a vu se développer ces dernières années ce qu'on appelle des procédures bâillon, dont l'objectif n'est pas de gagner la procédure juridique, mais de mobiliser les ressources, l'énergie de l'association, en l'occurrence, de manière à la dissuader de poursuivre ses enquêtes sur telle ou telle entreprise. Nous, je peux citer deux exemples dans en Amérique du Nord, en particulier, là où c'est le plus flagrant. Une entreprise de bois, Resolute, qui poursuit Greenpeace en demandant 300 millions de dollars de dommages et intérêts au nom d'une loi états-unienne, qui est une loi qui avait été, à l'époque, créée pour réprimer le crime organisé. Hein, donc, le plaignant estime que Greenpeace agit en tant que mafia de manière à extorquer de l'argent aux défendeurs. Donc, évidemment, c'est absurde, mais la procédure dure depuis des années, mobilise des fonds importants parce que les enjeux sont très importants. Alors, nous, on se voit comme des lanceurs d'alerte dans la mesure où on révèle des scandales, des atteintes à l'environnement. Qu'il s'agisse de pratiques délictueuses ou non, ce sont toujours des atteintes à l'environnement, donc ils représentent un danger pour l'environnement, un danger pour la santé publique, un danger pour les droits aussi des populations concernées. Ça va être notamment le cas sur le bois illégal, hein, le trafic de bois illégal qu'on dénonce, qui vient notamment d'Afrique centrale, et qui se pratique aux dépens des communautés forestières.
Nicole Marie Meyer, vous avez été une lanceuse d'alerte, hein, vous-même, alors que vous étiez en poste au ministère français des Affaires étrangères. À l'époque, vous étiez diplomate sur le continent africain et vous rendez un rapport qui révèle de graves dysfonctionnements financiers et comptables, absence de comptabilité, absence de contrat de travail, des salariés non déclarés. Le rapport est alors bloqué par votre hiérarchie, n'est pas envoyé à Paris, vous êtes placardisé. Alors que se passe-t-il à ce moment-là pour vous ?
Alors, c'est peut-être un point important d'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de confusion, si vous voulez. Il faut peut-être expliquer que le lanceur d'alerte, c'est tout autant le lanceur d'alerte interne
qu'externe.
C'est pour ça qu'il y a les termes signaler, révéler. Signaler, c'est voie interne ou autorité compétente.
Donc quand on travaille dans une entreprise ou dans une administration.
Oui, oui. Si vous faites, en fait, si vous faites remonter un rapport à votre direction de l'éthique ou à n'importe quel directeur, vous êtes un lanceur d'alerte, je dirais. Du moins, s'il y a des... Vous faites normalement remonter cela. S'il y a des représailles, là, vous devenez, d'une certaine façon, un lanceur d'alerte.
Mais
c'est important de le dire, parce que c'est vrai que moi, j'ai fait au départ deux fois, effectivement, une fois en Afrique et une fois en Allemagne, en fait, sur deux postes que j'avais. J'ai fait deux fois remonter des rapports confidentiels à ma hiérarchie, factuelle, avec pièce comptable en attache. La première fois, je me suis retrouvée menacée de mort, c'est-à-dire sous contrat de mort, et deux hauts fonctionnaires m'ont demandé d'engager un garde du corps pour me protéger. J'ai également été menacée de sanctions disciplinaires, alors que j'avais simplement rendu un rapport interne, ce qui est tout à fait inquiétant, si vous voulez. Et effectivement, après une tentative pour me licencier qui s'est bien résolue parce que le dossier disciplinaire est tombé faute de preuves et que Paris a été convaincu par le rapport qui a fini par leur parvenir. Mais à ce moment-là, j'ai été déplacée dans un placard. Donc effectivement, j'ai été déplacée. Mais la deuxième fois, donc la première fois, j'avais trouvé des soupçons de détournement de fonds et une très mauvaise gestion. Et la seconde fois, j'ai trouvé faux usage de fonds en écriture publique et abus de biens sociaux. Et là, je dirais que les choses ont recommencé. Alors, la première fois, j'avais prévenu l'inspection générale, j'avais téléphoné à l'inspection générale qui m'avait contrôlé l'année précédente et trouvé, enfin, qui avait écrit que j'étais un agent exceptionnel. Je ne le savais pas, mais ça a compté effectivement pour moi. La première fois, j'ai entendu l'inspecteur général qui m'avait contrôlé me dire « Madame, ne nous saisissez pas, nous ne pourrons rien faire pour vous et vous vous mettrez en danger ». Ce qui m'a laissé me demander qu'est-ce que j'avais dans ce dossier où je ne voyais que de la mauvaise gestion et peut-être un détournement de fonds. Et la deuxième fois, j'ai vu mon chef politique. Là, j'ai saisi officiellement l'inspection générale sans leur demander leur avis. J'ai eu des pressions, effectivement, pour ne pas envoyer mes rapports, etc. etc. Et lorsque j'ai vu mon chef politique, il m'a dit « Madame, en dessous d'un million, vous n'intéresserez personne et vous ne vous créerez que des ennuis. » Ce qui veut dire... Bon, alors effectivement, la deuxième fois, j'ai voulu absolument rencontrer l'inspection générale. Je l'ai rencontrée et j'ai perdu à ce moment-là mon emploi et ma carrière.
En 2004.
En 2004, à une époque où le terme lanceur d'alerte n'était pas particulièrement connu ou pas connu du tout, notamment pour un Français. Je n'étais pas juriste de formation.
Vous ne saviez pas à l'époque que vous étiez lanceuse d'alerte.
Pas du tout, pas du tout. Et donc, je faisais simplement mon devoir. Et d'ailleurs, pour rebondir, c'est important de voir qu'il y a peut-être 99% de ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte qui essaient simplement d'appliquer la loi, puisque la loi est le cœur de la cité. C'est ce qui nous permet de fonctionner. Lorsque la loi dysfonctionne ou est profondément injuste, et là on trouve effectivement les réflexions de Gandhi, de Martin Luther King, ou si on remonte de Saint-Augustin.
De la désobéissance.
Alors, oui, la désobéissance civile. Mais il est important de dire qu'au départ, il s'agit éventuellement et d'abord, si vous voulez, de faire respecter la loi. Donc moi, j'ai découvert à mon corps défendant qu'il n'y avait pas de protection explicite de l'agent public menaçant, enfin, signalant crimes ou délits. Et j'ai découvert qu'il n'y avait pas en France, terre des droits de l'homme et pays qui est quand même très avancé en droit du travail en général, il n'y avait pas de protection explicite ni de l'agent public ni du secteur privé pour le signalement de crimes ou délits, ce qui m'a semblé extrêmement grave.
Un vrai vide juridique.
Un vide juridique dramatique pour une démocratie. Et si on se dit que l'agent public n'est pas protégé lorsqu'il veut simplement respecter la loi, on se dit que si l'État glisse, tout peut glisser. Donc à partir de là, je me suis dit, plus jamais cela derrière moi. Donc, une loi globale pour la France, une autorité indépendante et une maison des lanceurs d'alerte pour les protéger, qui sont les trois projets que j'ai eus en 2009 aux côtés de Transparency. Et nous sommes aujourd'hui 23 ONG, dont Sherpa et dont Greenpeace, dans ce projet de construction d'une maison des lanceurs d'alerte. Mais à titre privé, j'ai eu un passage du désert assez effroyable lorsque j'ai perdu mon poste.
Une vraie solitude.
Parce que je me suis retrouvée à 49 ans totalement traumatisée avec 15 années d'étranger, donc plus de réseau en France. Toute ma carrière construite, j'avais plus de 20 ans dans le service public, toute ma carrière construite, au moment où je croyais recueillir les fruits de mon travail, et je ne dis pas me reposer, mais en tout cas recueillir les fruits de mon travail, je devais recommencer intégralement ma vie. et vous entraînez à ce moment-là toute votre famille. Je veux dire, moi je viens d'une famille d'ouvriers, ce qui signifie que je viens de ce qu'on appelle la méritocratie, donc j'ai eu un traumatisme personnel extrêmement grave à surmonter, à la fois parce que ma vie était détruite, mais aussi parce que l'idée que j'avais de la France et le sens général, le bien, le mal, si vous voulez, tout, je n'avais plus de sol en dessous de mes pieds. Et ça, il faut le voir. Et même si j'ai reconstruit ma vie, j'ai eu 4 années chômage et minima sociaux, avec 2 parents invalides partiellement à ma charge, et ma retraite sera diminuée du tiers ou de la moitié, en termes personnels. Donc, il faut toujours voir, si vous voulez, les répercussions, les risques, les répercussions. Ces répercussions, affectent la personne, son métier, sa famille et sa santé.
On vous sent effectivement très ému, même encore aujourd'hui. William Bourdon, à quel risque effectivement on s'expose quand on devient lanceur ou lanceuse d'alerte? Alors évidemment, il y a des risques pour sa vie personnelle, mais aussi des risques sur sa vie professionnelle.
Écoutez, quand j'interroge Antoine Deltour au tribunal de Luxembourg, je lui dis, mais finalement, il est devant ses juges. Je lui dis, mais Antoine, qu'est-ce que finalement t'as décidé? Il est face au journaliste Édouard Perrin, qui est là plein de gourmandises. C'est pas l'accablé que de dire ça, parce qu'il sent qu'il a des pépites extraordinaires, là, à quelques centimètres de sa main. Je lui dis, qu'est-ce qui fait que t'as basculé? Il dit au juge, je vais sortir du de la salle, je vais allumer une cigarette, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée, mais en tous les cas, il allume une cigarette. Et puis, il va avoir ce moment extrêmement intense où il va arbitrer entre la conscience qu'il a extrêmement aiguë des risques qu'il va prendre, judiciaires, des risques pour sa famille, et en même temps, cette exigence de sa conscience citoyenne de franchir le Rubicon. Et il le franchit. Bon, lui, il a eu, entre guillemets, de la chance, d'abord, d'avoir un caractère et un tempérament formidable.
Il faut beaucoup de courage.
Un caractère et un tempérament formidable qui inclut évidemment du courage, et qui inclut de la vaillance, qui inclut aussi de l'humilité, parce que les lanceurs d'alerte qui la ramènent et qui sont gonflés de narcissisme créent un effet répulsif et désuniversalisent leur action. C'est l'humilité qui permet d'avoir accès à l'universalité. Donc ça, c'est évidemment un point important. Et puis il avait un bagage très solide de valeurs, une famille, une compagne formidable qui l'a aidé, des avocats, j'allais dire formidables, non, ça serait manquer de modestie, mais enfin, en tous les cas, on l'a fait acquitter, et c'était la première décision d'acquittement rendue par un juge européen sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'est une fois de plus le juge européen qui va, de façon plus moderne que les juges nationaux, essayer de tracer un sillon jurisprudentiel. Alors évidemment, les risques peuvent être extrêmement élevés. Si on se précipite dans la gueule du loup, on peut être absolument broyé. Donc à ceux et à celles qui nous écoutent, évidemment, il faut peser les risques, il faut s'entourer, il faut parler à des associations, des avocats, des journalistes, la société civile. Et puis enfin, au moment où on se parle, on en parlera de cette funeste loi sur le secret des affaires. Macron avait échoué en 2015, il a réussi en 2018. Mais il y a une façon de la modélisation. Et sans tomber dans je ne sais quel conspirationnisme, quand même, il y a une forme d'oligarchie financière à l'échelon de la planète, parfois industrielle, qui voit les lanceurs d'alerte, à juste titre, ils ont raison, comme leurs pires adversaires.
Comme une vraie menace.
Absolument, parce qu'il peut y avoir les lois anticorruption les plus formidables, les engagements éthiques qui dégoulinent sur les sites internet des multinationales, et on se dit, mais c'est Stéphane Hessel et Nicolas Hulot qui ont écrit tout ça, c'est pas possible, tellement ils nous annoncent un monde merveilleux. Mais la réalité, c'est que la mondialisation permet par à la fois l'informatique, les mathématiques, l'externalisation par un jeu et un entrelac de poupées russes et éventuellement dans les paradis fiscaux, à la fois de chanter un monde merveilleux et de se mettre à l'abri de la loi. Et qui peut répondre à cette espèce de stratégie extrêmement cynique? Les lanceurs d'alerte. Ce sont eux qui, du fin fond d'un ordinateur, du fin fond d'une salle obscure de traitement de marché, ou alors un fonctionnaire qui travaille au ministère de l'économie et des finances, en miroir avec le destin difficile et douloureux de Nicole Marie, qui tout d'un coup vont prendre leur courage à deux mains et vont mettre sur la table la réalité du double langage, la réalité de la duplicité. Et s'il y a bien un domaine où la duplicité aujourd'hui fait des ravages, c'est bien celui de la corruption, où à la fois les acteurs privés économiques semblent être véritablement les plus solides champions de la lutte contre la corruption et en même temps organise un laisser-faire dans une logique d'enrichissement ensemble, dans une espèce d'entre-soi. Et c'est parce que justement les lanceurs d'alerte sont perçus comme les ennemis et la menace la plus grave qu'il faut s'engager tous ensemble. C'est ce qu'on fait collectivement pour que la loi les protège. Parce que plus elle les protège, je me répète, mais c'est important, plus on leur épargne la désobéissance. Et c'est la désobéissance qui, elle, les expose au plus grand risque. On le voit de façon tragique, s'agissant d'Edward Snowden, que je le disais il y a quelques instants que j'ai été voir. La situation donc dans laquelle il est absurde. Enfin, cet homme a dessillé les yeux, y compris du citoyen le plus ordinaire, Angela Merkel, sur un système de surveillance planétaire extrêmement meurtrier pour notre vie privée. Il mériterait une forme de prix Nobel et pourtant il reste un des citoyens les plus persécutés de la planète.
Les voisins, les voisines, si vous connaissez des lanceurs d'alerte dans votre pays qui avertissent d'un risque, qui veulent provoquer une prise de conscience sur un sujet de société, vous nous racontez tout ça au 33 1 84 22 71 71. Que vous inspire ces combats-là? On vous attend et d'ici là, vous restez avec nous. On continue de partir en quête de vérité avec nos invités. The Truth, c'est tout de suite sur RFI et c'est signé Handsome Boy Modeling School. Interpelle pour provoquer des prises de conscience, nous avertir de dangers, de risques pour nos sociétés, qu'il s'agisse de pesticides, des dangers du nucléaire, de surveillance massive ou de corruption généralisée. Qui sont les lanceurs d'alerte? C'est la question que l'on pose aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. Et comment les protéger au vu des risques auxquels ils s'exposent? Avec nous pour en parler, l'avocat William Bourdon, président fondateur de l'organisation Sherpa et cofondateur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, Nicole-Marie Meyer, aujourd'hui responsable alerte éthique auprès de l'ONG Transparency France, elle-même lanceuse d'alerte en 2004, qui a publié le guide pratique à l'usage du lanceur d'alerte, Jérôme Frinier, directeur des programmes de Greenpeace France, et le philosophe Thomas Schauder, chroniqueur pour le site internet du Monde. Alors les voisins, les voisines, vous pouvez nous écrire sur Facebook. Je vous lis le message d'Elrama à Boire, en République centrafricaine. Les lanceurs d'alerte aiment la vérité et la justice face à l'hypocrisie des grandes puissances. Ils sont obligés de ne pas fermer les yeux sur certains actes qu'ils ne considèrent pas corrects. Oumar nous écrit, lui, depuis Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. À mon avis, les lanceurs d'alerte ont besoin du soutien de la société civile. Leur rôle est prépondérant dans la société pour notre qualité de vie à tous. Et ces histoires de lanceuses et de lanceurs d'alerte inspirent aussi le cinéma. Ça a été le cas d'Irène Frachon, pneumologue, qui a dénoncé le médicament Mediator, commercialisé par les laboratoires Servier, prescrit en cas de diabète, utilisé comme coupe-faim et responsable de la mort d'au moins 500 personnes. La fille de Brest, c'est le titre du film qui a inspiré son histoire, réalisé en 2015 par Emmanuel Berco. Extrait de la bande-annonce et du film.
On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans.
Pour arroser les grands médias.
Je suis médecin, moi.
À Pam Pam Girl.
Ça va être Hiroshima. Ouais, bah, c'est pas mon moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis.
J'ai besoin de renforts, de vrais pros.
Des centaines de milliers de personnes ont été exposées.
Mais ça fait 30 ans qu'il existe Médoc, réveillez-vous les gars.
Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine.
Pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi?
Oui.
Je ne suis ni chercheuse ni cardiologue, en effet. Mais j'ai passé ma dernière année d'internat dans un service de pneumologie où j'ai vu des jeunes femmes mourir après avoir été exposées à un autre de vos médicaments, l'isoméride.
Deux informations très facilement vérifiables auraient pu d'emblée apaiser vos craintes, docteur Frachon, et vous épargner ce long voyage depuis Brest. La première, c'est que notre produit Mediator traite le diabète de plus de 2 millions de Français avec des résultats fort satisfaisants. La deuxième, c'est qu'en 30 ans de commercialisation, il n'a jamais été associé un quelconque effet cardiovasculaire.
Se baser sur une enquête locale de pharmacovigilance pour identifier un tel risque nous paraissait à nous aussi très peu prudent.
À nos yeux, il ne peut s'agir que de pure coïncidence.
C'était donc un extrait du film La fille de Brest qui relate le cas d'Irène Frachon, qui a donc dénoncé le médicament, le Mediator. Alors, William Bourdon, on a donné l'exemple de plusieurs lanceurs et lanceuses d'alerte dans cette émission. Vous avez cofondé la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique en 2017, basée à Dakar. Alors, des lanceurs d'alerte, on en a aussi sur le continent africain.
C'est un mouvement mondial, cette colère, cette impatience de voir les responsables publics et privés faire d'autres choses que des grimaces et de tirer à boulet rouge sur leurs propres engagements, c'est mondial, c'est universel. Comme est universelle l'exigence de redevabilité, de responsabilisation de ceux qui devraient l'être le plus. Alors l'Afrique, pourquoi l'Afrique? Parce que en fait c'est deux relations d'amour, c'est une relation d'amour avec les lanceurs d'alerte, avec l'Afrique qui se sont rejointes, et outre le fait que c'est évidemment en Afrique où les lanceurs d'alerte sont les plus menacés, parfois de mort, et où la possibilité d'avoir un recours à un journaliste, un avocat, un média est évidemment aussi faible que l'état de droit qui y règne et qui le plus souvent est en lambeaux. Et c'est en même temps en Afrique où je rencontre, et je suis pas le seul, une société civile de plus en plus exigeante, de plus en plus informée, de plus en plus professionnelle, admirable de courage, et qui ne supporte plus ces abus de pouvoir, qui ne supporte plus la culture de l'impunité, qui fait que plus on s'enrichit, plus on viole les droits de l'homme, parce que la corruption, elle entraîne parfois des crimes de sang. Les crimes d'argent sont souvent escortés par des crimes d'argent.
Donc ça a été le cas en Afrique du Sud, notamment.
Voilà, alors on a créé un bureau à Dakar, un bureau à Johannesburg, un bureau à Paris. On vient de sortir notre premier rapport annuel. Il y a un site où j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller gambader et éventuellement réfléchir sur ce qu'ils pourraient faire pour de façon extrêmement sécurisée pour eux. J'insiste, notre obsession, c'est de ne pas rajouter des difficultés aux difficultés. Donc il y a une possibilité qui est offerte en raison des prouesses de la technologie à ce lanceur d'alerte potentiel de poster, de dialoguer avec nous suivant différents procédés et d'une façon qui les mette à l'abri de toute persécution. Mais c'est très difficile l'Afrique. On a exfiltré là une famille dans des conditions extrêmement compliquées, en urgence, d'un pays que je ne vais pas citer, et en même temps des résultats formidables. J'ai créé PLAF il y a 18 mois, trois mois après j'ai reçu une clé à mon cabinet où il y avait les 80 000 documents des Guptalix. Les Guptalix, vous savez, c'est cette famille, les Gupta, qui avait des liens totalement corruptifs avec Zuma. On est descendu 4-5 fois à Johannesburg, on a structuré la défense des grands lanceurs d'alerte sud-africains, et je suis fier de dire qu'avec toute l'équipe de PLAF, on a contribué au départ de Zuma.
Qui avec était donc des milliers de documents confidentiels qui montrent que des entrepreneurs de ce clan
d'Afrique du Sud qui avaient trahi l'héritage de Mandela
pouvaient intervenir au plus haut niveau de l'État.
Voilà. Donc, on progresse, je ne veux pas trop prendre la parole, on progresse, là on est très 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 mobilisés sur des grands lanceurs d'alerte qui sont parfois dans une situation de risque maximum et qui dénoncent le système d'évaporation d'argent public par ce funeste Kabila, qui est une espèce de despote terrible, et qui demain peut être à l'origine aussi de crimes de sang, tant les populations n'en peuvent plus de cette autocratie dans bien des pays, en Algérie, au Nigeria. Bref, il y a une espèce de vent mondial en faveur des lanceurs d'alerte qui souffle, et qui souffle de plus en plus fort, et qui nous permet voilà, de créer les uns et les autres des structures pour les accompagner, les aider, les protéger. Notre obsession, et on a une double obsession, je termine là-dessus, les protéger et ne pas se faire instrumentaliser. Parce que la vertu est trop souvent utilisée et manipulée
de manière politique.
Pour venir permettre au vice de se propager. Ça, c'est aussi vieux que l'humanité. Donc, vigilance absolue, ne pas se faire manipuler par les faux lanceurs d'alerte, et éviter aussi l'entrisme. On a déjà eu quelques signaux de funestes forces de l'ombre et de l'obscurité qui viendront chercher à essayer de nous déstabiliser. Mais ça y est, on est équipé et on est vigilant sans tomber à aucun moment dans la paranoïa. Mais au niveau de vigilance, bien entendu.
Et on en vient donc sur le continent africain, mais aussi dans le monde entier, Jérôme Frigny, à la notion de désobéissance civile. En l'occurrence, là, on parle de l'envoi de documents confidentiels. Voilà, comment définir cette notion-là et comment vous, cette notion-là, vous la prenez en compte dans vos actions à Greenpeace ?
Alors pour Greenpeace, très clairement, la révélation de scandales au moyen de documents fournis potentiellement par des lanceurs d'alerte n'est pas toujours suffisante. On se heurte à une inertie des pouvoirs publics qui sont censés réagir, parfois une inertie aussi du public, des médias, qui n'attachent pas forcément beaucoup d'importance. Parce que le sujet peut être complexe, peut être technique, parce que la voix de Greenpeace se heurte à la voix des autorités qui se veut rassurante, etc. Et pour illustrer ça, il n'y a pas de meilleur exemple que le secteur du nucléaire. Le nucléaire, on trouve tous les ingrédients. On a la collusion entre l'État et l'industriel qui est très forte. Les décideurs publics sont issus des mêmes corps d'élite de Polytechnique, des mines, que les personnes qui sont à la tête des industriels comme EDF, Orano, Lex Areva, on trouve l'opacité. On parlait tout à l'heure de la recherche de la vérité. Oui, bien sûr, le lanceur d'alerte, il recherche la vérité, il souhaite faire émerger cette vérité. Le secteur nucléaire, c'est tout l'opposé. C'est l'opacité érigée en dogme, puisque EDF a très fréquemment recours notamment au secret défense. Donc c'est le summum de l'opacité. Circuler, il n'y a rien à voir, même les parlementaires qui sont censés avoir un droit de regard sur les politiques gouvernementales et leurs conséquences, leur application, n'ont pas accès à tout ce qui est voilé du sceau du secret défense. Donc, parfois, il est nécessaire, de notre point de vue, de mettre un gros coup de projecteur. Et on fait ça avec des personnes qui sont des bénévoles, qui sont des gens qui croient, effectivement, comme Greenpeace, que révéler la vérité est nécessaire, que dénoncer les risques que fait courir l'industrie nucléaire qui évolue dans ce cercle fermé, dans cette opacité, ça vaut le coup de se mettre en avant et de prendre des risques. Donc c'est ce
même
qu'on appelle
si
la désobéissance civile.
La
méthode est illégale, mais ça on revendique le recours à une certaine forme d'illégalité dans la mesure où elle est non violente, pacifique, publique, et qu'elle est destinée à promouvoir l'intérêt général. Donc on retrouve ces ingrédients dans la dénonciation de l'opacité et des failles du nucléaire qui font courir un risque énorme aux populations. On l'a vu avec des exemples comme Fukushima ou comme Tchernobyl. Donc pour nous, c'est très important. Alors, on assiste quand même à un durcissement de la répression, un durcissement de la législation, parce qu'effectivement, le gouvernement n'aime pas voir se développer ces actes de désobéissance civile. Donc, on a vu
très récemment,
voter.
En février dernier, 8 militants de Greenpeace ont été condamnés à la prison avec sursis par le tribunal de Thionville.
Voilà, alors c'était la première application d'une nouvelle loi qui avait été votée lors de la législature précédente. La loi de Gannet qui visait uniquement, d'ailleurs elle a été baptisée loi anti-Greenpeace, parce qu'elle visait uniquement à réprimer les intrusions de Greenpeace, donc en renforçant l'arsenal répressif. Donc le jugement de février était lié à la première application de cette loi. Il y a eu un deuxième jugement faisant suite à une deuxième intrusion centrale. Et là, moi j'assistais à cette audience à Privas et j'ai été personnellement très choqué par les mots du procureur lors de son réquisitoire. Il a dit il faut en finir avec la désobéissance civile. C'est ce qu'il a dit, ça a été rapporté par une journaliste de Mediapart notamment qui assistait à l'audience. Il faut en finir avec la désobéissance civile, c'est très grave de dire ça. La justice, voilà la justice qu'on nous propose, il faut en finir avec la désobéissance civile, c'est-à-dire il faut en finir avec des gens qui s'inspirent des exemples de la lutte pour les droits civiques, il faut en finir avec les Martin Luther King, il faut en finir avec les Nelson Mandela, il faut en finir... Voilà, voilà le monde qu'on nous propose aujourd'hui, et c'est, encore une fois, ce sont les mots du procureur de la République.
Thomas Chauder, effectivement, la question se pose, jusqu'où désobéir ?
Mais, juste pour rebondir sur ce que vient de dire M. Frénier, le procureur de la République est dans son rôle. Le désobéissant civil, par définition, désobéit. Or, le rôle du procureur est de faire en sorte que les citoyens qui désobéissent soient rappelés à la loi. Donc, en fait, il est complètement dans son rôle en disant ça. Je pense simplement que l'avenir lui donnera tort. C'est-à-dire que, puisque vous parliez de Mandela, de Gandhi, etc., de toutes ces grandes figures du siècle dernier, les désobéissants civils sont aussi ceux qui font évoluer la notion de civisme. C'est parce qu'il y a des gens qui désobéissent à la loi que la loi change, en fait. Sinon, comment dire, l'autorité politique est toujours là pour entériner un état de fait, pour faire en sorte qu'il y ait un fonctionnement qui roule plus ou moins bien, mais qui roule. Justement, c'est pour ça que les lanceurs d'alerte et les désobéissants sont essentiels à la vie démocratique, parce qu'ils permettent à cette démocratie de progresser et d'aller dans le bon sens. Et excusez-moi, j'ai oublié la question que
jusqu'où peut-on désobéir? Alors, justement,
pardon, merci beaucoup.
Vous y répondez un petit peu.
Mais jusqu'où peut-on désobéir? Cette question est difficile à répondre en règle générale. Je pense que c'est à chacun. Si quelqu'un désire désobéir, ou plutôt s'il sent que c'est son devoir de désobéir, il doit se poser en pleine conscience cette question-là. Il est très difficile de répondre dans l'absolu.
On en vient à la question de la protection des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Nicole-Marie Meyer, qu'en est-il en France? Vous, en 2004, quand vous vous lancez dans ce combat-là, il y a un vrai vide juridique. Quel régime de protection existe aujourd'hui en France? Alors, il y a une loi en 2016, la loi Sapin 2, qui a créé un régime général de protection. Que dit cette loi et où en est-on?
Alors, comme on rebondit tous d'abord sur ce qu'a dit le précédent, je vais peut-être deux choses. Lorsque Snowden envoie son premier mail à Poitras, la documentariste, il utilise le pseudonyme de Vérax, celui qui dit la vérité, critère de vérité. Et pour parler des deux branches, ceux qui veulent respecter la loi et la désobéissance civile, peut-être une citation de Martin Luther King qui est très éclairante. Nous avons la responsabilité dans la prison de Baltimore en 1963. Nous avons la responsabilité non seulement légale mais aussi morale d'obéir aux lois justes. Inversement, nous avons la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Voilà. Donc j'en viens à la protection des lanceurs d'alerte. C'est un combat. Alors déjà, la loi dite Sapin, c'est un combat qui a commencé en 2009, qui a réuni effectivement une coordination. Nous étions 18 ONG en 2016, dont notamment toujours Sherpa et Greenpeace, Amnesty, enfin bien d'autres. Et c'est un combat qui avait pour but d'essayer d'obtenir des standards internationaux. Et comme CTI qui a lancé la coordination, je dirais les principes directeurs de Transparency. Bon. Mais l'analyse qu'on avait pu faire de mon cas ou d'autres cas, c'est qu'il fallait une définition très large. Or, on avait la définition du Conseil de l'Europe de 2014 qui, pour la première fois, disait « menace ou préjudice pour l'intérêt général ». Depuis 1978, c'est-à-dire la première loi sectorielle américaine, vous aviez une liste de 5 à 19 signalements protégés. Crime ou délit, crime économique, risque santé, sécurité, et vous oubliez toujours quelque chose. Premièrement, parce que vous réagissez au dernier scandale, donc vous refaites un petit bout de sectoriel ou bien vous remettez une définition. Et donc, le Conseil de l'Europe a dit concept, menace ou préjudice pour l'intérêt général, ce qui permet de protéger quelqu'un comme Antoine Deltour, qui fait un signalement sur l'optimisation fiscale agressive, si on veut. Bon. Donc, ce qui est très intéressant dans ce concept, c'est qu'on protège toute la zone grise, de ce que la société n'a pas encore classé comme illégal, mais de ce qui va devenir de plus en plus intolérable et qui sera peut-être constitué comme illégal, si vous voulez. Donc, On a obtenu en France la définition la plus ouverte au monde avec la loi de décembre 2016, puisqu'on a effectivement toute personne physique, hein, seulement physique, ça c'est vrai, on en reparlera, toute personne physique qui signale ou révèle, donc interne, autorité ou externe, public, média, toute violation de la loi nationale ou internationale, et ou toute menace ou préjudice grave pour l'intérêt général. Donc, la définition la plus large au monde, c'est la première définition conceptuelle.
Une large, donc protectrice.
Oui, une irresponsabilité pénale pour tout, effectivement, pour tout, pour révélation de tout secret protégé par la loi, par exemple, effectivement, tout ce qui est secret professionnel, à partir du moment où il est proportionné à l'alerte. Vous ne délivrez pas tous les secrets de votre organisation, mais ce qui est utile à l'alerte. Vous avez une autorité indépendante qui est le défenseur des droits. Dans d'autres pays, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'ombudsman, qui est le médiateur, ce qui est exactement la même chose. Vous avez la nullité de toutes les représailles, directes ou indirectes, avec réintégration dans l'emploi, et dans le secteur public et dans le secteur privé. Et vous avez des sanctions, effectivement, à la fois pour entrave, quelle qu'elle soit, au signalement, mais aussi pour procédures abusives, les procédures bâillons, ou pour divulgation de l'identité ou des informations qui permettraient d'identifier le lanceur d'alerte. Donc on a obtenu, effectivement, je dirais, un des quatre meilleurs statuts au monde, avec l'Angleterre, 98, l'Irlande 2014, la Serbie 2014, parce qu'en Serbie vous avez aussi des sanctions si vous ne protégez pas le lanceur d'alerte, si vous ne traitez pas l'alerte et si vous ne faites pas un retour au lanceur d'alerte, par exemple.
Donc la France a largement rattrapé son retard.
La France a rattrapé son retard, mais nous avons exclu la personne morale qui était prévue par la loi dite Blandin, et pour aller tout de suite à la directive européenne, le projet qui a été effectivement le projet de la Commission européenne publié le 23 avril de cette année et qui est en discussion au Parlement actuellement, prévoit également d'étendre la protection à la personne morale.
Et ça pourrait être le cas donc de l'ONG voilà. Greenpeace.
Donc il y a une extension à la personne morale.
Jérôme Frignier.
Oui, je voudrais revenir sur ce que Thomas Schauder a dit, juste pour apporter une précision, c'est que dans le cas de Privat, nous avons plaidé l'état de nécessité. Donc c'est une disposition qui existe dans le droit, alors malheureusement elle est très très peu appliquée, très difficile de faire la démonstration qu'on tombe sous cette protection-là. Mais l'état de nécessité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons plaidé pour Greenpeace et pour nos militants le fait qu'il n'y avait pas d'autres moyens à notre disposition, dans la mesure où nous avions déjà publié l'alerte concernant la fragilité des centrales, la vulnérabilité de certains bâtiments à une attaque terroriste en particulier.
C'était la seule façon de dénoncer.
Et donc, comme rien n'avait été fait, c'était la seule façon de dénoncer, que les moyens étaient proportionnés, parce que nous n'avions pas d'autres moyens à notre disposition, et bien sûr, sans aucune intention de commettre les dommages dont nous visions simplement à dénoncer la possibilité, voire l'imminence. Alors l'imminence, elle est évidemment impossible à prouver. C'est pour ça que l'état de nécessité n'a pas été retenu. En revanche, les condamnations étaient beaucoup plus cette cléments.
Cette protection donc, des lanceurs d'alerte encore chancelante sur le continent africain et dans d'autres pays hein, que la France sur la planète peut aussi encourager d'autres à se lancer. C'est aussi l'idée. Merci à vous, William Bourdon, Thomas Schauder, Nicole-Marie Meyer, Jérôme Frignier. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Steven Elsley, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, après une séparation amoureuse, comment rester parents ? À demain, les voisins. Aïe, Nama!